CFM Lacaune, le mag.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur CFM Lacaune. Aujourd'hui dans le mag, on reparle de l'association Riga à Saint-Pierre-de-Trévisy, qu'on avait reçue il y a environ un an à peu près, voilà, qui continue hein, pas mal de choses à proposer à Saint-Pierre-de-Trévisy. Et on pourrait dire qui signe un petit peu sa rentrée culturelle ce samedi 5 septembre à 18h avec la diffusion du film Êtes-vous toujours là, avec donc à la réalisation et la production Dounia Chemsedoa et Anna Meschiari. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Donc Anna qui est avec nous dans le studio, Dounia qui est par téléphone, hein, mais voilà, on devrait vous entendre très bien toutes les deux. Une petite question, est-ce que c'est la première projection là en fait que vous allez faire de ce film ?
C'est la deuxième.
D'accord, voilà, pour contextualiser, donc c'est la deuxième. C'est une vraie rencontre artistique, hein, en fait, on va expliquer un petit peu mieux tout ça, justement, et pourquoi dans les prochaines minutes. C'est un projet, on peut dire, à la limite, peut-être même plus que limite, du paranormal. voilà, et de pas mal de réflexions aussi, d'expérimentations, on va développer ça, hein, évidemment, dans cette émission. Donc, avant peut-être de revenir un petit peu sur cette projection et tout le concept donc artistique hein, voilà, qui la précède, un petit rappel peut-être de ce qu'est l'association Riga, de son projet artistique aussi, que tu portes déjà depuis quelques années, hein, Anna.
Oui, Riga est une association qui est née en 2021, que j'ai cofondée avec Philippe Spigolon, qui est mon compagnon, qui est située dans un ancien hôtel à Saint-Pierre-Trévisy. Et en fait, on accueille plusieurs fois par année des artistes, des écrivains, écrivaines, des fois aussi des commissaires d'exposition, à réaliser un projet, souvent qui aboutit en forme de livre, autour de la bibliothèque qu'on met à disposition. Donc c'est une bibliothèque qui a plusieurs milliers d'ouvrages et qui est de toutes sortes. Donc il y a toutes sortes de livres qu'on met à disposition, que ce soit de la littérature, des sciences humaines, de toutes thématiques possibles et imaginables. On a aussi des choses autour de l'ésotérisme, autour de l'astrologie, disons, toutes choses. Et souvent, du coup, après, il y a un livre qui apparaît. Et donc aujourd'hui, on est à la 9e publication et on travaille de façon assez intense sur la 10e qui sera publiée pour le salon d'édition à Marseille auquel on participe, il s'appelle Trafic. Et on publie un livre avec Yuri Son, qui est une artiste coréenne qui vient de terminer sa résidence au mois de juillet chez nous. Et on travaille du coup à son livre qui va apparaître plutôt au mois de décembre, oui.
Donc on suivra évidemment ça aussi de près. Et c'est vrai que les publications, on peut les retrouver peut-être comment ? Elles sont distribuées peut-être comment en fait ?
Alors on les distribue via notre site internet. Il y a un lien sur Hello Asso. Donc vous pouvez les commander soit en ligne, soit venir nous voir lors des événements, notamment samedi si vous avez envie d'acquérir nos publications. On y sera.
Voilà, ce sera un petit peu l'occasion. Alors, paradoxalement, samedi, il n'y aura pas de livre. Là, on est plus, effectivement, sur une diffusion, sur un film. Donc, petit pas de côté, peut-être. Et ce sera aussi l'occasion de découvrir peut-être un petit peu plus ton travail artistique, Anna, parce que bah, généralement, c'est un peu les autres artistes qui sont mis en avant là, avec Riga. Et donc, c'est vraiment voilà, une rencontre hein, un petit peu entre deux univers. Alors, c'est peut-être l'occasion, avant de se plonger un peu plus dedans, de justement parler un peu de vos deux parcours respectifs, Anna et Dounia. Je laisse peut-être Anna commencer.
Oui, alors moi, j'ai réalisé des études plutôt dans la photographie. J'ai terminé il y a une dizaine d'années. Et il y a quelques années, j'ai rajouté un peu d'anthropologie à mon parcours. Donc, j'ai fait une licence à distance à l'Université de Toulouse. Et dans tout ça, j'ai pu évoluer en faisant des projets, m'éloignant petit à petit de la photographie et en allant plutôt vers quelque chose qui est un travail plastique qui glisse d'un médium à l'autre, donc qui m'a donné beaucoup plus de liberté, qui a de l'intérêt autour des archives, de l'architecture, tout un travail aussi autour du textile, donc toutes ces choses-là se mélangent, et des fois c'est aussi de la vidéo notamment, donc voilà, tout ça coexiste, et essaye à chaque fois de remettre un peu en question la question de l'espace aussi, et de l'architecture, de recréer un espace dans l'espace, quoi.
Et pour Dounia Chamsedoa, donc, vous êtes artiste plasticienne et aussi réalisatrice, forcément cet aspect-là, il va ressortir pas mal, hein, dans ce projet, un peu même au début un petit peu de votre parcours ici déjà, hein, Dounia.
Alors, moi j'ai étudié aux Beaux-Arts de Lorient en Bretagne, et après les Beaux-Arts, je me suis orientée dans l'audiovisuel, où j'ai pas mal travaillé en tant que monteuse vidéo et ensuite en tant que réalisatrice, effectivement. Tout en ayant une grande pratique de la photographie argentique, tu vois, finalement, enfin, peut-être que nous avons ça en commun à la base, à l'origine peut-être. Et ensuite, j'ai raccroché les wagons, si on peut dire, sur les arts plastiques, où j'ai évolué dans ma pratique et dans mes thématiques, où je me suis beaucoup intéressée à l'invisible. Donc ça, c'est aussi une part assez personnelle. Et donc, dans... Voilà, j'ai une pratique pareil multidisciplinaire où je vais faire aussi de la photographie, de la vidéo, de l'installation, de la céramique et tout ça en questionnant souvent les thématiques de l'invisible, en tout cas de l'intangible.
Et ce qu'on va très clairement retrouver, hein, dans ce projet, êtes-vous toujours là. Avant d'être un film, en fait, c'était une exposition, on peut dire, donc d'Anna Mescari, Les Dormeuses. Voilà, je me suis un petit peu préparé pour le dire comme il faut, pour le côté inclusif aussi à l'oral. Exposé à Sérignan, dans l'Hérault notamment, voilà, donc entre... octobre à peu près, en 2025 et mars 2026. Donc peut-être un mot tout d'abord, voilà, sur cette expo pour comprendre un petit peu déjà le matériau de départ de ce projet.
Alors tout ça commence même avant Rome. Disons que je suis partie en résidence à la Villa Médicis fin 2024 et tout ça c'était en lien avec une exposition personnelle qui devait commencer en octobre 2025, donc une année d'après. Donc Rome, ça a été un peu... un accélérateur, on va dire, pour ensuite produire à l'atelier toute l'exposition qui était à voir au Musée Régional d'Art Contemporain à Sérignan. Donc tout ça, c'était un peu le départ, le prétexte, on va dire, de ma résidence à Rome, c'était aller sur les pas de Marta Lonzi, qui était une architecte italienne, qui avait beaucoup travaillé dans des aménagements d'intérieur, mais pas que, mais qui s'intéressait beaucoup à la séparation des espaces. Et pour moi, la séparation, c'est comme une espèce de leurre, donc ça n'existe pas vraiment. Du coup, toutes ces choses-là me questionnent beaucoup. Et j'étais un peu partie sur la recherche un peu de ces traces. Et tout ça, au fil du temps, ça a donné en fait beaucoup de... Ça, en fait, le fait d'être à Rome, ça a élargi, on va dire, la chronologie, c'est-à-dire qu'elle était plutôt active dans les années 70. Elle avait créé le mouvement féministe avec... elle s'était rajoutée au mouvement féministe Rivolta Femminile avec sa sœur Carla Lonzi. Carla Lonzi était plutôt connue pour être théoricienne de l'art, critique d'art. Et donc, tous ces personnages comme ça ont un peu animé mon séjour romain. Et ensuite, quand je suis revenue à Saint-Pierre-de-Trévisy, j'avais tout ce sac qui était rempli de choses, de strates, notamment aussi dans séjour, disons, dans repérage à la nécropole étrusque à Banditache, c'est au nord de Rome. C'est là où j'ai réalisé une vidéo qui avait été montrée au musée. Donc, toutes ces choses-là ont créé après cette exposition qui mélange sculpture, installation, architecture. Disons, c'était il y avait plein de choses à découvrir et qui essayaient comme ça d'imposer une nouvelle forme dans un espace architectural donné qui était assez compliqué et du coup qui ouvrait aussi l'espace vers autre chose. Et donc cette autre chose là, c'est vrai que quand j'en ai parlé avec Dounia et que j'ai voulu l'inviter à faire ce projet, je savais très bien qu'avec elle je pouvais sonder cette question là que toute seule j'aurais pas pu. Et donc, après, voilà, elle a tout de suite capté le message. Et je pense que du coup, après, il y a eu plein d'échanges avec elle pour me pousser et pour arriver ensemble à questionner ce lieu, en fait.
Et c'est ça aussi, j'imagine, sur ce projet. Donc, Dounia va nous expliquer un petit peu aussi ce qu'elle a apporté. Mais j'imagine que du coup, il y avait, voilà, vous connaissiez aussi déjà et il faut une certaine confiance, j'imagine, artistique aussi, peut-être humaine, pour autoriser en quelque sorte un autre artiste à venir comme ça vers son œuvre aussi, peut-être.
Oui, les deux, je pense, d'un côté, de mon côté, à permettre quelqu'un d'avoir un regard comme ça. Et du côté de Dounia aussi, je pense, d'amener sa pratique dans la mienne. Donc, ouais, je pense que la confiance était là. Et à ce moment-là, on a pu travailler ensemble, oui.
Donc, Dounia, c'est vraiment ça. C'était un petit peu aussi une manière de réexplorer, peut-être réinterpréter un petit peu cette exposition en la filmant. Je le dis peut-être mal, mais je vais vous laisser l'expliquer.
Oui, tout à fait. Alors, l'idée du film, je parle pour Anna aussi, mais c'était aussi d'aller au-delà d'un catalogue d'exposition et au-delà d'un texte théorique, critique, car effectivement, nous sommes artistes. Et c'était l'idée d'expérimenter l'espace. Quand Anna m'a invitée sur le projet, de pouvoir faire parler les œuvres, effectivement, tout de suite, on a parlé d'invisible. Ça a été effectivement nourri de beaucoup de discussions avant, l'année d'avant, sur l'invisible, sur les pratiques paranormales, ésotériques. On a beaucoup parlé de médiumnité. Et tout d'un coup, ça a surgi l'idée d'interroger les œuvres. Et quand Anna m'a proposé ce projet, moi j'ai tout de suite imaginé qu'on pouvait faire des protocoles d'expérience, de questionner avec des expériences issues des pratiques spirites et paranormales de chasseurs de fantômes, mais pour questionner des œuvres, c'est-à-dire essayer de faire surgir un nouveau langage. C'était un peu l'idée d'imaginer que les œuvres et l'espace d'exposition était un terrain fertile pour des surgissements, en fait. On a tout de suite foncé dans cette idée-là. Et donc, moi, je lui ai proposé des protocoles. Elle m'a beaucoup parlé de son travail. On a fait comme ça des allers-retours pour écrire ces protocoles, pour créer des outils. Donc, moi, j'avais déjà... c'est une pratique que j'ai déjà depuis longtemps. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours. C'est une histoire familiale, enfin bon. Et donc, je lui ai proposé des dispositifs, des outils de communication avec l'invisible. Et on a écrit comme ça les protocoles vraiment adaptés à ses œuvres. Et c'est comme ça que l'écriture du film se construit, en fait, selon les protocoles d'expérimentation. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter toutes les deux dans l'espace, au contact des œuvres, et de poser des questions adaptées. Enfin, voilà. Et c'est comme ça que le film s'écrit, finalement.
Alors justement, Dounia, vous me parlez aussi de chasseurs de fantômes notamment, donc c'est vrai que il y a pas mal d'éléments qui font un petit peu penser à la pop culture, peut-être le cinéma d'horreur un petit peu aussi. J'en parlais peut-être un petit peu avant l'émission aussi avec Anna sur comment certaines personnes ont pu déjà percevoir aussi l'exposition avec un petit peu ce côté espace limino, popularisé par Backrooms notamment il y a quelques mois au cinéma. Donc c'est vrai que là aussi, je me disais, le public, il aura peut-être différentes formes de liens, peut-être un petit peu avec cet aspect paranormal. Et du coup, peut-être que tous ces éléments-là aussi, ça rattache à une certaine pop culture et du coup, ça va parler finalement à beaucoup de monde, même si on va pas forcément tous, interpréter pareil, voilà, cette question du paranormal. Comment peut-être vous l'avez ressenti un petit peu toutes les deux ?
Moi, ce que je peux dire, c'est que effectivement, quand j'ai visité la première fois l'exposition d'Anna, lors du vernissage, effectivement, ça m'a fait vraiment penser aux espaces liminaux. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis assez longtemps et je suis assez férue de pop culture, de films. J'ai trouvé aussi l'espace très lynchien. En fait, Anna, elle a réussi à créer un monde dans un monde, c'est-à-dire un nouveau monde. Et je l'ai vraiment envisagé comme un espace liminal, c'est-à-dire un espace du seuil. Ce sont des espaces, on ne sait pas si c'est une projection de la pensée, si c'est un monde en deçà, au-dessus. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça de monde à explorer. Enfin, en tout cas, dans la pop culture, les espaces liminaux, ça vient vraiment des vidéos qu'on appelle creepypasta, qu'on trouve sur Internet, dont une originale et dont le réalisateur Backroom a trouvé la trace. Enfin, il y a une sorte de légende. Finalement, ce sont des légendes d'Internet. Et c'est vraiment un phénomène sur vraiment le post-capitalisme ou en tout cas le post-industriel, c'est-à-dire ces espaces transitoires d'attente ou alors qui ont été habités mais qui ne sont plus comme des grands magasins, mais comme dans Backroom d'ailleurs. C'est marrant parce que le projet, quand on a imaginé le projet avec Anna, moi j'étais pas du tout au courant que ce film se faisait. Enfin voilà, c'était assez marrant comme synchronicité aussi. Et du coup, ça dit aussi quelque chose du questionnement que nous avons sur les espaces aujourd'hui et sur notre ère capitaliste ou pré-post-capitaliste, je ne sais pas où on en est, mais voilà, il y a cette idée-là en fait de malaise quelque part, de malaise dans la consommation. Ce ne serait pas le malaise dans la culture, mais ce serait plutôt le malaise dans cette surconsommation. Voilà.
Ouais, il y a une peur du vide aussi, peut-être un petit peu.
Exactement, c'est tout à fait ça, c'est la peur du vide. Il y a une sorte de. Voilà, de mais dans le. Après, là où c'est pas exactement ça avec le travail d'Anna, c'est que dans le travail d'Anna et dans son exposition, ça va plutôt être des strates, des mémoires qu'elle vient activer, mobiliser, justement à travers l'architecture, l'archéologie. Voilà, son œuvre qui s'appelle TUF, ça fait carrément appel à vraiment l'antiquité. Donc voilà, c'est des strates de mémoire comme ça. Donc c'est pas tout à fait sur la peur. Voilà, on n'est pas exactement dans l'horreur, quoi. C'est pas du tout ça dans l'exposition d'Anna. Au contraire, c'est un monde qui pourrait se reconstruire. L'architecture vient à reconstruire des choses comme ça, des espaces, des déambulations, mais pas dans l'horreur, quoi. Je tiens quand même à te dire que c'est pas l'horreur, quoi.
On va rassurer peut-être un petit peu le public un peu sensible. Ça peut attirer voilà, les fans d'horreur, comme voilà, il ne faudrait pas non plus que ça repousse les autres. Et alors, c'est vrai que voilà, je termine un petit peu sur les éléments de la pop culture. On va voir aussi un cadran que vous avez un peu développé, donc du coup, Dounia, sur des précédents travaux, et qui va un peu servir à... Voilà, là aussi, une communication paranormale. Il y a d'autres éléments un petit peu où on va venir capter des choses avec des micros, un petit peu tout ça, voilà, un petit peu qu'on a pu voir un peu dans la pop culture ces dernières années, quoi.
Oui, alors en fait l'idée c'est bon, après c'est dans la pop culture et dans le réel paranormal, enfin dans le réel recherche sur le paranormal. En fait, en gros, donc imaginez qu'on nous Anna et moi, nous avons performé des protocoles, parce qu'il y a aussi l'idée de performance, mais d'éprouver l'espace, de le ressentir. Et donc, ces protocoles, ils sont vraiment issus de la parapsychologie, hein, qui existe quand même depuis quasiment un siècle maintenant. Et notamment, donc la radiesthésie, la radiesthésie, le pendule, la pratique du pendule sur cadran, c'est quelque chose qui existe depuis quand même hyper longtemps. Et même au 19e, on utilisait la radiesthésie justement pour aller trouver des structures enfouies, des tombes, enfin sur des sites archéologiques. Donc ça, c'est un peu l'origine. En fait, toutes ces pratiques, il y a aussi eu la période spirit. Donc on tentait de parler avec les défunts, des entités, de l'invisible. Et donc on a quand même plus d'un siècle de recul de pratiques et de protocoles. Ensuite, ça s'est développé aux États-Unis, bien sûr. Donc, peut-être pour donner un exemple, le pendule et le cadran, les gens, ils voient un alphabet, donc ils pensent que c'est une Ouija, mais c'est plutôt rattaché à la radiesthésie. On va faire des études d'objets, des études de sol. La radiesthésie, à l'origine, c'est quand même pour trouver une source, donc c'est une pratique de sourcier. Ensuite, pour les appareils, on va appeler ça, ça fait partie de la grande famille de la transcommunication instrumentale. Donc, c'est l'idée d'utiliser un appareil d'enregistrement, ou en tout cas un appareil sonore, ou un magnétophone mais à bande, ou un enregistreur, pour essayer de communiquer avec l'invisible. Là, dans le film, on utilise donc un microphone électromagnétique, qui n'est pas vraiment un microphone, hein, c'est un abus de langage. Ce sont des bobines qui s'appellent des inductances, qui vont permettre de transformer une onde électromagnétique en onde sonore, en son, en fait. Donc voilà, et on vient comme ça, Anna performe cet objet dans l'espace pour savoir s'il y a des fluctuations dans ces ondes électromagnétiques.
Il y a aussi un travail vraiment sur cette distorsion un petit peu sonore aussi, ce que ça va peut-être un petit peu en fait évoquer pour le public aussi. Donc on a compris un petit peu ce travail-là, cette situation dans laquelle vous vous êtes mis un petit peu toutes les deux. D'ailleurs, à tour de rôle, hein, c'était vraiment ça, l'idée aussi, peut-être Anna aussi, on peut vous entendre sur ça, sur l'idée de vraiment jouer le jeu de cette expérience, en tout cas.
Oui, je pense qu'il y avait certainement ça. Et du coup, il y a ce dialogue qui se crée, alors qu'au début, on ne sait pas trop si ça marche ou pas. Disons, quand on le fait, on n'est pas consciente en fait, qu'il y a quelque chose qui apparaît, parce que quand on a les yeux bandés, on entend le balayage comme ça de la radio, on n'entend pas les questions de l'autre personne qui est émetteuse de questions. Donc nous, on les reçoit. Et du coup, en fait, c'est vraiment une expérience qu'on redonne comme ça dans le film, du début à la fin, sans couper. Donc, il y a l'idée de la performance aussi qui revient là, mais il y a aussi cette porte vers toute la question de l'invisible, toute la question de la parole qu'on ne peut pas vraiment retracer autrement, que via cette émission de radio, disons, qui arrive comme ça, et que, en fait, c'est Dounia, pendant qu'elle faisait le montage, qu'elle a pu retracer comme ça des réponses qui apparaissent dans un sous-titrage. Le film. Donc il y a trois voix, il y a la voix de la personne qui pose des questions, il y a la voix de la personne qui a les yeux bandés et qui entend les balayages des radios et qui essaie de dire ce qu'elle entend, ce qu'elle arrive à percevoir dans ses oreilles. Ouais, ça va très vite, donc c'est très difficile. Et après il y a cette voix, cette troisième voix, qu'on a découvert en travaillant sur le montage. Donc, même pour nous, ça a été une surprise, en fait. De plutôt, disons, plutôt, on était plutôt étonnés du résultat.
En gros, oui. Donc, c'est vraiment une personne qui a les yeux bandés, qui a le casque audio branché et qui, donc, la radio balaye les fréquences. Et chaque fois qu'un mot est entendu, la personne répète le mot à haute voix. C'est ça qui est hyper intéressant, sans entendre les questions. Et en fait, si... ce que disait Anna, c'est que s'il y a une question et que la personne répond, il y a une synchronicité dans la réponse, c'est-à-dire que quand la personne répète un mot à voix et qu'il y a une correspondance, c'est-à-dire que ça crée un vrai dialogue, on peut dire qu'on communique avec l'invisible. C'est un peu l'idée de la méthode Estes. Voilà, que c'est un double aveugle, mais que quand il y a un dialogue un peu, entre guillemets, cohérent, il va y avoir un dialogue avec l'invisible, sachant qu'évidemment c'est toujours soumis à interprétation. Ce que disait Anna, c'est qu'il peut y avoir trois voix, donc la personne qui pose la question, la personne qui répète et le surgissement. Et le surgissement, il est toujours soumis à interprétation sur le moment, et encore après, comme tu disais, en post-production, il va y avoir d'autres mots qui apparaissent qu'on n'avait pas entendus ou que la personne n'avait pas entendu, puisque de toute façon ça balaye très très vite. Et ça crée aussi, je trouve, un dialogue très poétique, en fait. C'est ça aussi qui est peut-être le plus intéressant, au-delà du paranormal ou de la possibilité de parler à l'invisible, c'est que ça crée une lecture poétique des choses, un nouveau langage, quelque part.
Mais oui, pour moi, c'était une écriture, quand même. Disons, de travailler comme ça avec toi, Dounia, je pense que ça parle d'écriture aussi. Donc, complètement,
Et c'est vrai que cet aspect poétique aussi va être intéressant, parce que comme je le disais, et vous parlez d'interprétation aussi, Dounia, c'est peut-être aussi pour le public, puisqu'il y aura un temps aussi d'échange hein, après la diffusion, c'est ça l'idée. Est-ce que vous serez d'ailleurs toutes les deux présentes pour la projection ce samedi 5 septembre Et donc c'est aussi les différentes sensibilités, différentes perceptions et ce que le public aura retenu aussi, qui sera intéressant peut-être pour vous de voir ensuite, puisque peut-être que tout le monde sera un petit peu marqué par des éléments différents, on peut imaginer. Est-ce que d'ailleurs, un petit mot sur, puisque vous avez déjà fait en fait une projection, quelles étaient un petit peu justement ces réactions parfois?
Oui, c'était très... intense, je dirais, moi. Je sais pas si dirait la même chose Dounia, mais c'était dans un petit cinéma à Condom, Donc c'est le Gascogne, je crois, il s'appelle. Donc on a fait une première diffusion au cinéma, donc ce grand écran de cinéma et tout ça. Donc c'était assez impressionnant. Et surtout ensuite, on a ouvert la porte aux questions. Donc on était très surprise de voir que finalement, il y avait complètement différentes approches. Et beaucoup de gens connaissaient déjà un peu mon travail parce que c'était dans le cadre d'un festival d'art contemporain dans lequel j'exposais. Donc, les personnes ont créé le lien avec ce qu'elles avaient vu de mon travail. Et surtout, je pense qu'elles ont fait le lien avec la question de l'écriture, justement, qui ressort, le langage, toutes ces choses-là qu'on voulait amorcer quand même avec ce film. Et en tout cas, il y a eu beaucoup de questions. Disons, les gens dans la salle, ils ont vraiment participé à cette discussion après. Et encore après, quand on est sorti du cinéma, il y a eu des gens qui ont quand même voulu avoir des moments un peu plus perso, avoir un retour plus individuel et tout ça. Donc, je ne sais pas, Dounia, ce que tu en as pensé.
Oui, c'était très intéressant. Parce qu'effectivement, quand on aborde la question du paranormal, ça peut être très clivant. Et au contraire, j'ai trouvé ça que les gens y trouvaient différentes choses. Il y a des gens qui étaient vraiment, vraiment intéressés par le paranormal, mais il y a aussi des gens qui étaient très intéressés par la forme d'écriture. Et en fait, c'est ça qui a été intéressant dans cette collaboration. On a fait une sorte de travail à plusieurs lectures, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, il y a les œuvres, il y a l'espace d'exposition, il y a cette performance que l'on fait à deux dans ce temps. Mais il y a aussi la question du film, du décor, du temps du film. Et puis, il y a la question du langage, et puis il y a la question de l'écriture, et la question de la poésie. Et donc, en fait, il y a plein de strates, en fait, quelque part, dans ce film, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que c'était riche, et que les gens avaient pas mal de questions, étaient assez curieux de comment on avait élaboré tout ce projet, en fait.
Bon, on espère qu'ils en auront tout autant ce samedi, donc c'est 5 septembre, donc à 18h, donc dans les locaux de l'association Réga Saint-Pierre-de-Trévisy. On peut peut-être rappeler d'ailleurs, c'est pas très compliqué à trouver si en fait Réga, si on n'y est jamais allé.
Non, c'est vraiment au centre du village, juste pas loin entre la place du village, là où se trouve la mairie, et l'église. C'est au numéro 965 avenue des Monts de la Cône.
Voilà. Et toutes les infos aussi qu'on peut retrouver un petit peu sur ce projet. Êtes-vous toujours là, qui donnera donc lieu à cette diffusion. On peut aussi en retrouver pas mal d'infos sur rigaproject.fr. Puis vraiment donc cette diffusion à vivre un petit peu aussi dans ces conditions-là. Et puis c'est une expérience véritablement aussi. Donc c'est à peu près 50 minutes le film. Et puis évidemment, après vous serez là toutes les deux aussi pour en discuter. Et on imagine que ça donnera lieu à un joli moment aussi. C'est une manière évidemment d'ouvrir aussi la saison, d'avoir un moment convivial aussi après. Et puis parler, j'imagine aussi un petit peu de ce qui arrivera aussi, parce qu'il y a il y a de nouveau une belle saison culturelle, j'imagine, qui arrive pour Réga. Merci beaucoup donc à Anna Meschiari pour Réga, artiste notamment de cette exposition Les Dormeuses, qui sera un peu, comme je le disais, réinterprétée aussi dans ce film. Êtes-vous toujours là? Merci beaucoup aussi à Dounia Chemsedoua, qui toutes les deux ont travaillé sur ce projet. Très bonne diffusion. Je vous laisse peut-être un petit mot de la fin si vous le souhaitez, l'une ou l'autre.
Merci, et on est toujours là.
Merci beaucoup.
C'est bien de répondre à la question, effectivement.